OK, on va continuer notre neuvième leçon. On va terminer la leçon qu'on avait commencée la semaine dernière. Donc, on avait mentionné qu'il y avait, lorsque la crainte de Dieu est présente dans nos vies, il y a des manifestations, il y a une façon visible, observable qu'on peut regarder dans la vie des chrétiens. Alors, on va regarder rapidement ceux qu'on a vus la semaine dernière et on va terminer cette semaine. Donc, il y avait une des manifestations, la première manifestation qui se présente dans la vie d'un chrétien lorsqu'il y a la présence de la crainte de Dieu, c'est la piété révérentielle. La piété, ça veut dire qu'on sait que Dieu est là et pour nous, c'est une grande importance et on respecte, on a un immense respect pour la personne de Dieu. Donc, la piété révérentielle, c'est une des manifestations. La deuxième, c'est la vigilance. Donc, la vigilance, c'est qu'on se rend compte qu'on est faible, qu'on est pécheur, qu'on est manquant. La vigilance, c'est de dire faire attention à nos pensées, à nos paroles, à nos actions. Surveiller ce qu'on fait, autrement dit. Éviter les endroits où on peut recevoir des tentations. Alors, la vigilance, normalement, quand on craint Dieu, on fait attention, on s'observe qu'est-ce qu'on vit et on demande au Seigneur de corriger les choses qui sont à corriger. La troisième, c'était le plaisir des conversations avec d'autres croyants, individuellement ou collectivement. Plus la crainte de Dieu s'installe dans nos vies, plus on prend plaisir à développer des relations avec nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ sur une base individuelle ou sur la base collective, c'est-à-dire quand on vient à l'Assemblée, on a automatiquement des relations avec nos frères et nos sœurs. Et c'est un des signes de la crainte de Dieu quand on prend plaisir à ces choses-là. On devrait prendre plaisir. Si on ne prend pas plaisir, quelque part, c'est peut-être un signe, quelque chose qui ne va pas dans nos vies. La quatrième, c'est vraiment le renoncement à soi-même. On était rendu là. Renoncer à soi-même. Donc, dans Néhémie, au chapitre 5, les versets 14 et 15, nous lisons « De plus, dès le jour où le roi m'a commandé d'être leur gouverneur dans la terre de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, moi et mes frères, nous n'avons point mangé le pain du gouverneur. Et les premiers gouverneurs, qui étaient avant moi, pesaient sur le peuple et prenaient d'eux du pain et du vin, outre 40 sicles d'argent. Leurs serviteurs aussi dominaient sur le peuple, mais moi, je n'ai point fait ainsi par crainte de Dieu. » Voyez-vous, les gouverneurs à cette époque-là pouvaient, autrement dit, taxer le monde puis prendre toutes sortes de biens pour leur propre... Et lui, il dit, je n'ai pas fait ça. Ni moi, ni ceux qui étaient sous mon commandement. Et il dit la raison, je n'ai point fait cela par crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu n'exploites pas tes frères et tes sœurs. On a aussi dans... Genèse chapitre 15, versets 22 à 24, « Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre. Si, depuis un fil jusqu'à une courroie de souliers, je ne prends rien de ce qui est à toi, et tu ne diras pas, moi, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, quant à eux, ils prendront leur part. » Alors, on voit que, après qu'il avait vaincu les rois, là, qu'il avait eu une guerre, il aurait pu tout ramasser les biens pour lui personnellement. Et il dit, je ne prendrai absolument rien pour moi. La seule chose, c'est que ceux qui sont venus m'aider à la guerre, je vais leur donner leur part. Alors, on voit un exemple d'Abraham qui a vraiment renoncé à soi-même par crainte de Dieu. On a dans 1 Corinthiens 8, versets 12 et 13, « Et ainsi, en péchant contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » Oui, il voyait qu'il y avait des faiblesses dans l'Assemblée. Il aurait eu le droit d'en le faire. Mais quand il est placé devant une situation où il a à choisir entre blesser son frère et renoncer à un droit, il renonce à son droit. Ça, c'est une preuve de la crainte de Dieu. Matthieu 10, versets 37 à 39. « Celui qui affectionne père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui affectionne fils ou fille plus que moi, n'est pas digne de moi, et qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie, la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. » Que ce verset-là, on pourrait passer du temps à le méditer et à regarder ce qu'il veut dire. Quand on dit, « Seigneur, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. » Il faut faire attention dans nos choix. Des fois, quand on choisit la famille avant le Seigneur, on fait un mauvais choix. C'est toujours le Seigneur en premier et les autres affaires. Oui, c'est important, mais il faut toujours garder à l'idée que le Seigneur est toujours le premier et ça devrait être le premier si on veut être son disciple, c'est ce qu'il dit. Si on aime nos proches plus que lui, il n'est pas digne d'être mon disciple. C'est sévère. Alors, ça a des raisons de nous faire réfléchir un peu. Et dans Luc 14, et versets 26-27 et le verset 33, ça c'est, il dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix en venant après moi ne peut être mon disciple. Et le verset 33, « Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut pas être mon disciple. » À quelque part, quand on dit, je me souviens, tantôt j'étais à Rouyn-Noranda, il y avait une femme qui était venue au Seigneur, puis elle était venue à l'église, puis elle m'avait appelé, puis elle était dans tous ses états quand elle a lu ce verset-là pour la première fois. Elle dit, « Hein? La Bible nous demande d'haïr notre frère, puis notre père, puis notre mère, puis notre soeur. » Elle dit, « Voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. Ses frères, ses enfants, ses frères. » Mais dans le fond, ce que le verset veut dire, c'est que si tu compares l'amour du Seigneur à l'amour que tu as envers ton père, tes frères, c'est comme si tu les haïssais. Autrement dit, le degré d'amour que tu as envers Dieu il doit être tellement grand que l'amour que tu as envers ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants, ça a l'air de haine. Alors, quelque part, c'est là qu'on voit que la barre est haute, comme on dit. OK, fait que là, ça c'était le cinquième, je crois. Le sixième, c'est l'absence d'un cœur partagé ou double. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le nombre de fois où Dieu reproche à son peuple d'avoir un cœur double, autrement dit, un cœur partagé. Quand on craint le Seigneur, plus on craint le Seigneur, moins notre cœur est partagé. Alors, on lit par exemple dans Colossiens, chapitre 3, verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte de Dieu. » C'est en train de leur dire, autrement dit, c'était un peu comme si on disait à quelqu'un qui travaille, ne travaille pas uniquement pour plaire à ton boss. Prends conscience que Dieu te regarde toujours, puis que les gestes que tu fais, c'est toujours à cause que tu crains Dieu. Autrement dit, tu agis comme si le patron n'existe pas. C'est Dieu qui est ton grand patron. Lui, il voit ce que tu fais en tout temps. Autrement dit, tu ne fais pas juste ta job jusqu'à que le patron te regarde. Tu fais ta job en tout temps parce que tu sais que tu dois le faire à cause du Seigneur. Alors, la personne qui craint le Seigneur n'a pas un cœur double ou partagé. Cette personne-là est d'une grande sincérité à la fois envers Dieu et envers les hommes. Elle est simple, sincère, fidèle et exempt d'hypocrisie. On a dans Zacharie, au chapitre 7, où on a le peuple de Dieu qui avait un cœur double, et la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, et dis-leur, quand vous aurez jeûné, en vous lamentant, au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce bien pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et quand vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Autrement dit, tu es en train de leur dire, vous faites les choses juste par apparence, vous ne faites pas les choses pour me plaire à moi. Alors, on a dans Jean 1, versets 45 à 50, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus. » Le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël lui répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Alors, autrement dit, le Seigneur est en train de dire, quand il l'a vu, qu'il connaissait bien avant de le voir sous le figuier. Il connaissait de toute éternité. Alors, c'est le fait que Dieu était déjà... Alors, l'absence d'un cœur partagé, c'est ce qu'on appelle la grâce d'or, qui provient de la crainte de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas partagé avec l'amour de l'argent ou l'amour du monde ou toute autre forme d'amour qui prendrait sa place de celle de Dieu. Sixième, c'est la compassion pour les croyants qui sont dans la nécessité ou dans la détresse. Quand on craint Dieu et qu'on voit des personnes de notre assemblée ou de d'autres assemblées qui sont dans la misère, qui sont dans la détresse, ça devrait susciter dans notre cœur de la compassion, de l'amour, de la volonté de les aider. On a par exemple 1 Roi, chapitre 18, versets 2 à 4. Et Élie s'en alla pour se montrer à Achab. Et la famine était grande à Samarie. Et Achab avait appelé Abdias, son maître d'hôtel. Or, Abdias craignait fort l'Éternel. Quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et les cacha, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les y nourrit de pain et d'eau. Autrement dit, Jézabel, c'est une reine vraiment cruelle, une incroyante, et elle avait commencé à se débarrasser de tous les prophètes qu'il y avait dans le pays. Abdias, c'était un prophète, et lui, il craignait Dieu. Alors, plutôt que de laisser aller le carnage, il a pris les personnes 50 par 50, il les a mis dans des cavernes, il les a nourris. Mais il faut se rendre compte que quand quelqu'un faisait ça à cette époque-là, aller à l'encontre de Jézabel, là, c'était risquer vraiment ta vie. Alors, c'est un exemple où ta propre vie est moins importante que d'aider des frères et des sœurs qui sont dans la misère et qui auraient été tués de façon très sûre si lui n'était pas intervenu pour les cacher. Ça démontre la crainte de Dieu. Un autre dans Actes 10. Or, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, capitaine dans la cohorte appelée Italique, homme pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Septièmement, ça va, une autre manifestation de la crainte de Dieu dans ta vie, ça va amener une vie de prière. Et cette vie de prière-là, elle va avoir des caractéristiques qui sont une vie de prière robuste, une vie de prière fervente et une vie de prière constante. Je me souviens d'avoir lu des statistiques concernant la longueur de la vie de prière, par exemple, des Nord-Américains. Apparemment que ça varie autour de 10 minutes par jour. Les Chinois, une demi-heure. Mais selon vous, juste poser la question, si on croit que la prière est puissante et qu'elle peut faire des choses extraordinaires, ne croyez-vous pas qu'on devrait passer plus que 10 minutes à prier par jour? Pas nécessairement dans un moment de prier une demi-heure ou une heure, mais de prier de façon constante dans nos esprits. On prend une marche, on prie, peu importe, on met beaucoup plus l'accent à demander à Dieu des choses. Autrement dit, plus on craint Dieu, plus notre vie de prière est importante et fervente et robuste. On a l'exemple de Christ lui-même, par exemple, dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte. Bien qu'étant fils, ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Vous voyez, c'est Christ lui-même qui était le Fils de Dieu, qui était l'homme dans sa chair, Dieu incarné dans sa chair. Et ça dit que il y avait des grands cris, des larmes, des prières et des supplications. Ça veut dire que la vie de prière du Seigneur lui-même était dans cette catégorie de prière-là. Prier avec larmes, on prie souvent avec des larmes. Tu sais, quand on pense qu'il y a des gens qui sont nos bien-aimés, qui peuvent mourir s'en allant en enfer, est-ce qu'on les aime au point de implorer la grâce de Dieu en pleurant? Ça démontre qu'on l'a à cœur, pas à peu près. Des fois, on n'a pas tout à fait ce degré de sorte de prière-là. Des fois, oui, des fois, non. Alors, Philippiens 2,6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Vous voyez, il y a trois choses dans la prière. Il y a la prière qui est juste demandée, une supplication. Quand on dit à quelqu'un, je te supplie, c'est comme quand on se met à genoux devant quelqu'un, je t'en supplie, fais pas ça ou fais ça, ou des supplications devant Dieu, est-ce qu'on en fait tant que ça? C'est parce que la Bible, c'est ça que ça nous dit, elle dit, faites vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il ne faut pas oublier non plus quand on prie, de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Toutes les fois qu'il a répondu à nos prières, à maintes et maintes et maintes et maintes reprises, parfois on prie, on fait juste du... Moi, j'aimais bien l'expression anglaise qui disait, genre de prière, des fois, qu'on fait comme chrétien, c'est « gimme, gimme, gimme ». Autrement dit, c'est la diminution de « give me, give me, give me ». On demande à Dieu « donne, donne, donne ». Puis bien souvent, il nous donne à maintes et maintes et maintes reprises un paquet de choses, puis on oublie de lui dire merci. Un peu comme les lépreux, quand ils n'avaient 10, qu'ils n'ont guéri 10, mais il n'y a qu'un qui est revenu pour lui dire merci. Septième ou huitième, pas trop, je ne sais pas comment on va arrêter de mettre des chiffres. Là. La volonté de donner à Dieu notre meilleur de tout et de le mettre à sa disposition. Notre meilleur, c'est pas notre surplus, notre meilleur. Donner toujours au Seigneur ce qu'on a de mieux. Alors, on a l'exemple, par exemple, dans Hébreux 11, versets 17 à 19. L'exemple d'Abraham, quand le Seigneur a demandé à Abraham d'offrir son propre fils en sacrifice. C'est sûr que sur le coup, Abraham, là, il devait être ébranlé, pas à peu près. Dieu te demande de sacrifier ton fils. Mais on a vu qu'Abraham croyait assez à Dieu pour savoir que Dieu avait la capacité de le ressusciter. Alors, quelque part, il obéit, parce que ça dit dans le verset 17, « Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, « C'est en Isaac que ta postérité sera appelée. » Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Alors que ça prend une foi ordinaire, pas pour rien qu'on l'appelle le père des croyants, hein, pour être capable de faire une chose semblable. Dieu l'a éprouvé, pas à peu près. Alors, donner notre meilleur, tu peux pas donner plus que ton enfant, là. Tu peux donner ta propre vie aussi, là. Mais c'est ce qu'il te demande, le Seigneur, d'être capable de donner tout ce que tu as de meilleur pour lui. Genèse 22. Versets 11 et 12, là où on a, après qu'Abraham a eu obéi, qui a voulu offrir son fils Isaac, on lit, « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Imaginez-vous, votre enfant, pour égorger son fils. « Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, « Abraham, Abraham, et il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Ne porte pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Autrement dit, la demande de Dieu passe par-dessus toute chose que tu peux ressentir dans tes émotions. C'est beaucoup. C'est pas pour rien, on l'appelle le père des croyants. Il dit, « Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Autre chose que le Seigneur nous donne, c'est un esprit humble. Romains, chapitre 11, versets 19 et 20. « Tu diras, les rameaux ont été retranchés, afin que moi je fusse hanté. Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. » Autrement dit, il est en train de lui rappeler que les Juifs, à cause de leur incrédulité, ont été enlevés, que le Seigneur a greffé une autre branche nouvelle qui était les nations. Et il lui dit, si le Seigneur a fait ça, fais attention, ne t'enorgueillis pas, mais crains. 1 Timothée, chapitre 3, verset 6, il parle ici des choix des anciens. Il dit qu'ils ne soient point nouvellement convertis, de peur que, enflés d'orgueil, ils ne tombent dans la condamnation du diable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps. Jacques, chapitre 4, verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes indécis. Sentez votre misère, et soyez dans le deuil, et pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en confusion de face. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors, il faut bien comprendre qui on est devant Dieu, et ne pas avoir peur de s'humilier, parce que le Seigneur nous dit que quand on s'humilie devant lui, il va nous élever en son temps et à sa manière. Autre manifestation, l'espérance de la miséricorde et de la grâce divine. Dans le psaume 147, verset 11, ça se dit « L'Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. » Autre moyen, l'utilisation diligente des moyens de grâce. L'utilisation consciente et constante des moyens de grâce est un indicateur sûr de la crainte de Dieu. Et on va en nommer quelques-uns. Là. La prière, la parole de Dieu avec les 5 choses qu'on se doit de faire avec. La lire, l'écouter, la méditer, la mémoriser et l'étudier. Plus on va pratiquer ces choses-là, plus on va démontrer de façon concrète qu'on craint Dieu. Sinon, Dieu nous la demande, mais on ne le fait pas. Ça démontre-tu qu'on craint? Ça ne démontre pas vraiment qu'on craint. Et autre chose, le baptême est un signe de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu demande de le faire. Et quand on le fait, c'est comme un signe de soumission, donc c'est un signe de crainte de Dieu. Le repas du Seigneur est un autre signe de crainte de Dieu, parce que le Seigneur nous demande de le faire. Donc en le faisant, en étant soumis, on lui démontre qu'on le craint. L'assistance à nos cultes. C'est un signe de la crainte de Dieu. Plus on assiste à nos cultes, plus on démontre qu'on craint Dieu, plus on démontre qu'on croit ce que le Seigneur nous dit. Quand on parle d'une soirée de prière, est-ce que tous les chrétiens de l'Assemblée devraient être ici ce soir?
Oui.
Moi, ma réponse est oui. Pourquoi il y en a qui ne viennent pas? Il y en a peut-être qui ont des bonnes raisons. Je ne suis pas en train de juger pourquoi. Là. Je suis justement en train de dire que quand on craint Dieu, toutes les occasions que le Seigneur nous donne pour faire des activités de nature spirituelle, on se devrait de sauter dessus et de les faire avec joie et avec amour. Parce qu'on sait que ça produit quelque chose. Autrement dit, quelqu'un qui dit qu'il croit à la prière, puis qu'il n'est pas là le mercredi soir, puis qu'il a une chance d'être ici, est-ce qu'il croit vraiment à la force et la puissance de la prière et à son efficacité? Autrement dit, il y aurait la possibilité de prier pour le bien-être de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de ceux qui sont malades, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde, puis il ne le fait pas. Il est mieux des fois s'écraser devant sa télévision. Quelque part, les moyens de grâce, c'est des moyens, ça le dit, le Seigneur nous a donné des moyens par lesquels on peut grandir, on peut s'approcher de lui. Plus on va les pratiquer, plus on va les utiliser, plus on va être fort dans la foi. Et moins on va les utiliser, moins on va être fort dans la foi. Ça, c'est, je pourrais vous donner, ça fait bientôt 40 ans que je suis chrétien, là. Puis je peux vous dire que je l'ai observé dans plusieurs églises, et c'est toujours la même chose. Ceux qui sont les plus forts, c'est toujours ceux qui utilisent les moyens de grâce avec le plus de régularité et avec le plus de force. Voyez-vous, Hébreux, chapitre 12, versets 14 et 15, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été donnés les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, ainsi y apportant tout votre zèle. Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et la dernière manifestation, c'est de faire ces délices de l'obéissance au commandement de Dieu. Le psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend tout son plaisir en ses commandements. 1 Jean, chapitre 5, verset 3 à 5. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Psaume 119, verset 35. Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements, car j'y prends plaisir. Et la dernière, c'est la joie et l'élargissement du cœur. Normalement, quelqu'un qui craint Dieu, son cœur va être élargi. Ésaïe 60, verset 5. Alors tu le verras et tu brilleras de joie. Ton cœur palpitera et s'élargira, car l'abondance de la mer se tournera vers toi. La puissance des nations viendra chez toi. Alors, on va regarder les applications qu'on peut faire à partir de ce qu'on a étudié depuis la semaine passée, cette semaine. Alors, demandons au Seigneur de nous sonder et de nous montrer les progrès qui nous restent à faire, qui devraient être plus visibles dans les 14 manifestations qu'on vient de mentionner, dans la crainte de Dieu, mais dans nos vies quotidiennes. Premièrement, la piété révérentielle du Seigneur dans ma vie est-elle observable et évidente pour tous ceux qui me connaissent et me côtoient? Mes yeux spirituels sont-ils à l'affût pour réaliser la volonté du Seigneur? Supplions donc Dieu de l'augmenter de façon perceptible, la piété révérentielle. La vigilance, deuxième point, fait-elle authentiquement partie de ma vie? C'est-à-dire que je veille sur mon cœur, mes paroles, mes actions, mes pensées, dans le but de mortifier au maximum les péchés qui offensent Dieu et les hommes. Prions pour demander une vigilance accrue. En avoir plus. On peut en avoir, mais on peut demander pour en avoir plus. Troisièmement, est-ce que je cherche à multiplier les conversations avec des frères et des sœurs dans la foi, à la fois dans les réunions de l'Église locale et dans mes fréquentations en général? M'arrive-t-il de préférer la compagnie des inconvertis, famille, voisins, collègues de travail, à la compagnie des croyants? Demandons la grâce d'aimer nos frères et sœurs davantage. Quatrièmement, je me fais un devoir et un plaisir d'utiliser les ordonnances du Seigneur, le baptême, le repas du Seigneur? Est-ce que je comprends l'importance d'assister à tous mes cultes dans l'Église locale? Seigneur, donne-nous de t'aimer davantage et de le manifester concrètement. Cinquièmement, est-ce que je pratique le renoncement à moi-même? Suis-je disposé à utiliser mon argent, mes biens, mes talents, mon énergie pour le plus grand bien des croyants localement et dans le monde? Suis-je prêt à donner ma vie pour demeurer un disciple de Jésus-Christ? Prions avec sincérité et ferveur pour que le Seigneur fasse de chacun de nous des modèles de réel renoncement à soi-même pour sa plus grande gloire. Sixièmement, mon cœur est-il partagé entre l'amour de Dieu et l'amour du monde? Suis-je toujours sincère, honnête, fidèle et sans hypocrisie à la fois envers Dieu et envers les hommes? Demandons la grâce de garder les yeux fixés sur Christ, sans distraction et en tout temps. Septièmement, suis-je compatissant de façon concrète pour les frères et sœurs dans la foi qui sont dans le besoin ou dans la détresse, et ceci tant dans mon église locale que partout dans le monde où le Seigneur me révèle des misères et des souffrances de croyants. Implorons le Seigneur d'attendrir notre cœur. Huitièmement, est-ce que je consacre du temps tous les jours pour prier? Quelle est la qualité de ma vie de prière? Est-elle importante, fervente, constante, ou est-ce que je la fais mécaniquement et sans que mon cœur ne soit véritablement impliqué? Est-ce que je comprends la puissance, la portée et l'efficacité de la prière? Est-ce que j'assiste à toutes mes soirées de prière? Est-ce que je prie et confie à Dieu tous mes besoins et tous mes soucis? Prions que le Seigneur nous donne de devenir de véritables princes et princesses de prière. Neuvièmement, suis-je disposé à donner à Dieu tout ce que j'ai, mon temps, mes talents, mes énergies, mes biens et même ma vie? Est-ce que je paye fidèlement ma dîme à l'église locale? Est-ce que je donne avec joie des offrandes volontaires? Seigneur, rappelle-nous constamment qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dixièmement, suis-je humble? Est-ce que l'orgueil est encore présent dans ma vie quotidienne, dans mes relations avec les frères et sœurs dans la foi et dans mes relations avec les hommes? Tel que nous demande le Seigneur, humilions-nous nous-mêmes et implorons son aide pour le faire et nous rappeler constamment nos misères. Onzièmement, est-ce que j'espère toujours dans la miséricorde et dans la grâce de Dieu, dans toutes mes circonstances, et plus particulièrement lorsque je suis dans la souffrance et dans l'épreuve? Notre Dieu est infiniment miséricordieux et gracieux. Prions de ne jamais l'oublier, de mettre ses faits en doute. Douzièmement, est-ce que j'utilise tous les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés? La prière, la parole de Dieu, sa lecture, son écoute, son étude, sa mémorisation, sa méditation, le repas du Seigneur, l'assistance à mes cultes, l'évangélisation. Ô Seigneur, conscientise-nous pour que nous négligions pas l'utilisation des moyens que tu nous as donnés pour croître dans la grâce, nous rapprocher de toi et nous fortifier dans la foi. Treizièmement, est-ce que je fais mes délices dans l'obéissance au commandement de Dieu? Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'aimer ta sainte loi et de la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Et quatorzième et dernière question, suis-je continuellement joyeux? Mon cœur est-il élargi et rempli de toi? Nous implorons ta grâce pour que nous reflétions ta gloire. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit adoré, béni et loué à tout jamais. Amen.